Chapitre 10. Ainsi commence la providence d'Ars. Pendant un quart de siècle, cette œuvre se maintiendra sans appui visible, sans budget, sans capitaux et sans revenus, avec des dépenses annuelles de 6 000 à 7 000 francs de l'époque. Aussitôt qu'il avait un peu d'argent, nous dira Catherine, vite, il achetait du blé, du vin, du bois, et le reste venait de lui-même. Les directrices imitent d'ailleurs parfaitement leur curé dans son manque d'organisation et de prévoyance, dans son désordre. On les interroge un jour sur le nombre de leurs orphelines. Surprises, elles répondent assez naïvement « Mais nous n'en savons rien. Comment vous n'en savez rien ? Non, en vérité, Dieu le sait et cela nous suffit. Et si l'une de vos pensionnaires venait à s'échapper ? Oh, nous les connaissons trop et nous en sommes trop occupés pour ne pas nous en apercevoir aussitôt. Il y aura pourtant des heures critiques. Parfois l'argent, le pain, tout manque. Et chaque fois, Dieu semble intervenir d'une manière si directe et si soudaine qu'il est difficile de ne pas voir là des circonstances miraculeuses. C'est ainsi qu'un jour où il ne reste plus de farine, ni de blé, ni le moindre sou pour en acheter, le curé d'Ars lui-même s'inquiète. L'abbé Monin, qui raconte tout au long cette histoire, ne nous en indique pas la date. Monseigneur, lui, Trochut, situe l'affaire dans le courant de l'année 1829. Il pense, le curé d'Ars, que Dieu le punit à travers ses orphelines à cause de ses péchés. Il appelle donc Catherine et lui dit, avec un air piteux, « Il nous faudra donc renvoyer nos pauvres enfants puisque nous ne savons plus où prendre pour les nourrir. » Cependant, avant d'accepter la solution désespérée, M. Vianney monte à son grenier. Ce grenier-là, les pèlerins d'Ars peuvent encore le voir aujourd'hui. Il est étroit, bas de plafond, traversé d'une poutre épaisse et plus émouvant que 10 basiliques. Donc l'abbé Vianney y monte, bien décidé cette fois à faire violence au ciel, en implorant un vrai miracle. Des grains sont dispersés sur les planches du grenier. Il les rassemble en un tas unique, au milieu duquel il cache une relique de saint François Régis. Puis il demande à ses orphelines de prier, se met lui-même en oraison et il attend. Un peu plus tard, sur son ordre, Jean-Marie Chanet va chercher du blé au grenier. C'est tout juste si elle réussit. Jean-Marie Chanet va chercher du blé au grenier. C'est tout juste si elle réussit à entrebâiller la porte et de l'ouverture. Le blé coule comme un ruisseau. Elle croit à une taquinerie de son curé et descend. Vous avez voulu éprouver mon obéissance. Votre grenier est plein. Monsieur Vianney l'accompagne. Jamais le grenier n'a porté pareille charge. En forme de cône, le tas de blé couvre toute sa surface et l'on se demande comment le plancher un peu vermoulu n'a pas cédé. Non, pas étonné, car il commence déjà à se mouvoir parfaitement à l'aise dans le surnaturel, mais contrit, le curé d'Ars bat sa coulpe et se précipite chez ses orphelines. « Je m'étais défié de la Providence, mes pauvres petites, leur dit-il. Je voulais vous renvoyer. Le bon Dieu m'a bien puni. » Il se servira de cette expression chaque fois qu'il recevra du ciel des marques particulières de protection, les attribuant en effet à une punition de sa défiance. Inutile de dire que la nouvelle de ce prodige se répand vite dans tout le village. Le maire Antoine Mandy, accompagné de nombreux paroissiens, tient à voir de ses yeux le blé miraculeux. Et le meunier appelé, qui en remplit ses sacs, pousse des exclamations d'experts admiratifs. Il n'a jamais vu d'aussi beau froment. Ce dont nous nous étonnons, ce que nous admirons, c'est l'extraordinaire simplicité de M. Vianney lorsque plus tard il racontera de pareilles histoires, avec un petit air de s'en excuser. Ainsi, pour l'affaire du blé, un jour que je n'avais plus rien pour nourrir mes pauvres orphelines, dira-t-il, il m'est advenu de cacher les reliques de saint François Régis dans le peu qui nous restait de blé. Le lendemain matin, nous étions bien riches. Oui, tout cela lui paraît assez naturel et simple. Une autre fois, Catherine Lassagne et Benoît Lardet n'ont plus de farine. Elles constatent que les provisions sont épuisées et il n'existe pas de boulanger dans le village. Cependant, près de 80 bouches attendent leur nourriture. Que faire ? Une des maîtresses, Jeanne Filia, dit à Jeanne-Marie Chanet, qui est chargée de faire le pain, « Si on cuisait le peu qui reste de farine en attendant ?» Et l'autre répond, « J'y ai pensé, mais il faut auparavant l'avis de monsieur le curé. » Nous ferons ce qu'il nous dira. Informez bientôt, monsieur Vianney répond paisiblement. Mettez votre levain dans le peu que vous avez de farine, fermez votre pétrin et demain faites comme si de rien n'était. Je ne sais comment cela se fit, racontera Jeanne-Marie Chanet elle-même. Toujours est-il que le lendemain, à mesure que je pétrissais, la pâte montait sous mes doigts. Je n'abondais pas à y mettre de l'eau. Plus j'en mettais, plus elle se gonflait et s'épaississait, tant et si bien que le pétrin se trouva en un moment comble jusqu'au bord. On fit comme à l'ordinaire une fournée de 10 gros pains de 20 à 22 livres chacun, avec une poignée de farine. Ce fut comme si, à la place de cette poignée de farine, on avait eu un sac. Providence, confiance et multiplication du pain. Il semble bien que ce soit l'évangile qui chemine. Cette étonnante histoire se racontait à l'abbé Monin lui-même par Jeanne-Marie Chanet, qui a mis les mains à la pâte, par Catherine Lassagne et par Marie Filiat. Pour ces braves filles, nous dit l'historiographe, le miracle n'a jamais fait l'objet d'un doute. Mais voici une autre affaire dont Jeanne et Marie Filiat sont les témoins. Nous suivrons pas à pas leur propre récit. Un jour, l'une d'elles entre à la cave et s'aperçoit que le vin coule. Elle court en toute hâte à la Providence et dit à Monsieur le curé « Je crois que le vin s'en va ». « Il n'y a pas de quoi se tourmenter », répond tranquillement Monsieur Vianney. « Celui qui a permis que le vin s'en aille peut bien le faire revenir ». Sur cette affirmation péremptoire, Marie Filia retourne à la cave avec sa sœur et trouve que le vin s'en est allé si bien qu'il n'en reste plus. Elle remplit deux pots avec ce qu'elle trouve sur le sol, puis remet au tonneau le peu qu'elle a pu sauver. Or, dans un souci d'ordre, elle veut transvaser cette petite quantité de vin dans un plus grand tonneau qui se trouve près de là et qui est à moitié vide. Et quand elle a fini le transvasement, le grand tonneau se trouve mystérieusement plein. Ce vin, comme celui des noces de Cana, fut trouvé excellent, ajoute l'héroïne de l'histoire, et d'une qualité bien supérieure à celui qu'on avait coutume de boire à la Providence. Autre anecdote, un jour à dîner, monsieur le curé me distribuait un plat de courge aux enfants. « Il faisait les parts si grosses, dira Catherine, que j'étais sûre qu'il n'irait pas au bout de la table. Je me permis de lui dire, « Monsieur le curé, si vous continuez ainsi, vous n'en aurez pas pour toutes, c'est impossible !» Il ne tint pas compte de mes avertissements, servit amplement tout le monde. Et néanmoins, il resta encore quelque chose au fond du plat. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Parfois, c'est une simple affaire d'argent que M. Vianney règle de son mieux avec le ciel. Il est démuni, il récite son chapelet, et le bienfaiteur ou la bienfaitrice se présente dans la journée, avec de l'argent, que le curé d'art s'empoche le plus simplement du monde. Mais quelle que soit la singularité du fait, il a pris si bien l'habitude de voir ses difficultés résolues in extremis, qu'il avouera souvent d'un air confus, « Oui, nous sommes bien un peu les enfants gâtés du bon Dieu. » On n'imagine pas quelles sommes d'argent ont passé par les mains de M. Vianney. Il reçoit de l'une, donne de l'autre, et c'est comme un fleuve de charité au débit incommensurable, dont il accélère sans cesse le mouvement. Lui-même, qui met une telle simplicité dans ses relations avec le Seigneur et qui ne s'étonne plus de rien, de temps en temps est saisi de vertige. Et ses amis l'entendent dire, sur le ton de la gratitude éperdue, « Quand je pense aux soins que le bon Dieu a pris de moi, quand je récapitule ses bontés et ses miséricordes, la reconnaissance et la joie de mon cœur débordent de tous côtés. Je ne sais plus que devenir. Je ne découvre de toutes parts qu'un abîme d'amour dans lequel je voudrais me perdre et me noyer. » Il raconte aussi, « Une autre fois que j'avais beaucoup d'inquiétude et d'ennui, j'entendis une voix qui me disait distinctement, « Que t'a-t-il manqué jusqu'à présent ?» En effet, j'ai toujours eu de quoi faire. La pauvreté lui plaît de plus en plus. Il s'abandonne chaque jour davantage au plaisir de tout devoir à Dieu. J'ai remarqué que ceux qui ont des revenus sont continuellement à se plaindre, dit-il encore. Il leur manque toujours quelque chose. Mais ceux qui n'ont rien, jamais rien ne leur manque. Et quand on lui reproche ses méthodes empiriques, son défaut d'organisation et de prévoyance, quand on prétend mettre de l'ordre dans les affaires de sa chère Providence, établir des statistiques et balancer des comptes, il proteste avec une douceur têtue. « J'ai souvent pensé que si nous sortions de notre état de pauvreté, nous n'aurions pas de quoi faire. » Il ajoute enfin, avec une sorte d'habileté naïve qui semble contraindre le ciel, « C'est la confiance surtout que Dieu demande. Quand il est chargé de tous nos intérêts, il y va de sa justice et de sa bonté, de nous aider et de nous secourir. » Dieu sait, au demeurant, que le désordre semble régner à la Providence. Nous avons vu qu'on y accueille avec une prédilection marquée les pauvres filles de 15, 18 et même 20 ans, que leurs parents ont pratiquement abandonné à leur sort et qui ne sont pas précisément des modèles de vertu. Il y a aussi des gamines toutes jeunes que l'on reçoit à l'âge de 6 ou 7 ans et qu'on ne renvoie jamais avant leur première communion. Et tout ce monde coexiste dans une maison qui est infiniment trop petite pour le contenir. Au rez-de-chaussée, l'exécuté du local oblige les écolières, orphelines et fillettes d'Ars à se tenir dans la même classe. Et nous fait remarquer, Monseigneur Trochu, lorsque les plus petites épellent à tue-tête le syllabaire que les moyennes récitent leurs leçons, que les aînés écoutent les explications, ce doit être un joli vacarme. Il y a d'ailleurs classe toute l'année, sans autre vacances que le congé du jeudi. Comment les directrices trouveraient-elles le temps, la possibilité matérielle de tenir la maison en parfait état ? Mais le curé d'Ars à la Providence se trouve bien. Il est merveilleusement accordé aux règles de hasard providentiel qui y président. Et pour lui, dont le presbytère ressemble plutôt à la demeure d'un esprit, la question d'hygiène, au sens où nous l'entendons, n'a qu'une importance légère. Dans les souvenirs de deux pèlerinages, par Paul Braque de la Perrière, on trouve une description d'ensemble assez frappante de cet asile étrange, tel que les contemporains de M. Vianney, stupéfaits, le considèrent. La maison renfermait 50 ou 60 jeunes filles, les unes de 12 ans, les autres de 15 ou de 18 ans, venues de tous les pays et reçues sans argent. Elles passaient là un temps indéterminé, puis étaient placées dans les fermes du pays. Pendant leur séjour, elles apprenaient à connaître, à aimer, à servir Dieu plus que tout le reste. C'était une espèce de famille dans laquelle les aînés donnaient exemple, conseil et enseignement. L'instruction était peu étendue, mais il régnait là une foi, une piété, une docilité admirable. Ce n'était pas une institution ordinaire, mais plutôt une véritable émanation de la sainteté de son fondateur. Ressources, vie, esprit, gouvernement, tout venait de lui, œuvre au caractère surnaturel, qui ne pouvait vivre que par l'influence immédiate de l'âme éminente qu'il avait fait surgir. De son côté, l'abbé Monin cite ce curieux témoignage d'un inspecteur des écoles primaires qui dira « J'ai toujours visité avec plaisir la providence de monsieur le curé d'Ars. Il est vrai que les bonnes filles qui sont à la tête de l'établissement ne sont pas très instruites, mais elles ont quelque chose qui supplée la science et qui vaut mieux qu'elles, la vertu. Je ne les ai jamais vues sans qu'elles m'aient édifié par leur simplicité, leur modestie, leur désintéressement, leur religion sincère. Les enfants qui se forment autour d'elles leur ressemblent. En sortant de cette maison, elles ne peuvent que devenir d'excellentes mères de famille. Je ne saurais dire la profonde impression que j'ai rapportée de chacune de mes visites à Ars. En voyant cette pauvre salle où s'asseyaient sur de pauvres bancs de bois, les 60 ou 80 pauvres filles que la charité d'un seul homme y a réunies, je pensais que s'il y a beaucoup de mal en ce monde, il y a aussi beaucoup de bien. On ne porte pas d'uniforme à la Providence. Les jeunes filles restent dans le costume qu'elles avaient en entrant. On y méconnaît absolument les pratiques de la vie commode. On mange du pain noir et l'on dort sur la paille. Tout se fait dans un esprit de pauvreté et de simplicité qui enchante le curé d'Ars et dont il ne peut détacher son cœur sans l'ombre d'élégance ou de recherche et parfaitement loin de l'esprit du monde. L'horreur du luxe y est portée si haut, note assez drôlement l'abbé Monin, que M. Vianney, ayant remarqué dans le mobilier une horloge dont le buffet est illustré de peintures naïves, prend lui-même un pinceau et fait disparaître ses enluminures, choquantes dans une maison destinée à être l'asile de la pauvreté. Nous pouvons même penser que notre saint exagère et nous acceptons difficilement l'anecdote que voici. Touchant le petit jardin attenant à la Providence, orné de plates-bandes et garni d'arbres à fruits, tant que monsieur le curé n'y voit rien de trop raffiné, il tolère ce jardin. Mais un jour, trouvant qu'il y a de la frivolité dans la manière dont on l'embellit, il en fait arracher les arbres pour mettre à la place de vulgaires légumes. Il est vrai qu'il y a planté lui-même une tonnelle de vigne afin d'abriter une statue de la Vierge. C'est bien là, dans cette maison, que monsieur Vianney se sent le mieux, qu'il est heureux. À partir de l'année 1827, ravi de se débarrasser du souci de ses repas, il demandera pendant 20 ans à la Providence l'aumône d'une tasse de lait chaque jour pour son déjeuner. Il va prendre le petit pot qui contient sa pitance quotidienne et en 5 minutes, il a fini. Puis il passe quelques instants dans la cour où les gamines jouent et s'amusent. Il les connaît toutes, les questionne, les taquine, les encourage. Et lorsqu'il veut obtenir quelque chose, il met ses enfants en prière comme on met un régiment en marche. Et le ciel n'y résiste guère. Si bien que la confiance du curé d'Ars en Dieu devient de plus en plus grande. Illuminée, aveugle, enfantine, elle lui tient lieu de tout. Quand les directrices faiblissent dans leur optimisme, il leur témoigne sa déception et les reprend avec sévérité. C'est ainsi qu'un jour, selon le récit de Catherine Lassagne, mécontente d'avoir trop de travail et d'être chargée de responsabilités, au-dessus de leurs forces, Catherine elle-même, Jeanne-Marie et Benoît, élèvent des protestations. Cela vient aux oreilles de Monsieur le curé, et lorsque Jeanne-Marie, connue pour son mauvais caractère, va le voir, elle le trouve contrarié. Monsieur Vianney reproche aux trois jeunes filles de n'être pas dans les mêmes dispositions qu'au commencement, de se montrer peu soumises à la volonté de Dieu. Et comme Jeanne-Marie, volontiers aigrelette, mais toujours de bonne foi, lui répond « Moi, à la bonne heure, mais les autres ne murmurent pas. Vous êtes toutes les trois de même, réplique Monsieur Vianney. » Malheureusement pour la pauvre Catherine, sa grande amie, Benoît Lardet, est de santé fragile. En octobre 1830, après une pénible maladie, elle entre en agonie. Et comme Catherine se lamente, « Tu es bien bonne de te désoler, » dit la mourante. « Voudras-tu donc que je reste en ce monde ? Je ne peux pas m'y accoutumer. » On voit que les directrices du curé d'Ars ont appris à parler son langage. Elles sont elles-mêmes, d'ailleurs, assistées par des coopératrices hors de pair, d'autres jeunes filles entièrement consacrées à ses enfants, qu'elles ne quittent jamais et par qui elles sont désignées sous le nom de mère. Et ces jeunes mères connaissent à l'institut de M. Vianney une vie proprement conventuelle. Les albums et guides du temps nous les décrivent à tort vêtus de robes de bure, ce qui s'explique par l'aspect monacal de la maison et son parti pris de pauvreté. D'ailleurs, à cette époque, un tailleur d'Ars porte en toute simplicité comme enseigne « tailleur de draps grossiers ». Cet homme est peut-être le fournisseur de la Providence. Les fameux catéchismes d'Ars, qui enchanteront des foules pendant 30 ans et feront en partie la célébrité du Saint-Curé, ont pris naissance à la Providence même. Chaque jour, à l'heure de l'Angélus et après le déjeuner de la communauté, quand l'unique pièce servant d'ouvroir, de salle d'études et de réfectoire a été balayée, on voit arriver M. Vianney. Il s'assied sur le bord d'une table, son auditoire se groupe autour de lui et il parle pendant une heure environ. Au début, les directrices et les enfants assistent seuls aux leçons de M. Vianney. Mais là, comme ailleurs, assez vite, les infiltrations des pèlerins se produisent. Après s'être contentés d'attendre au seuil de l'orphelinat, les visiteurs finissent par pénétrer dans la salle. Petite annotation. Cela durera jusqu'en 1845. À partir de cette date, le nombre déjà croissant des pèlerins obligera M. Vianney à faire ses catéchismes dans l'église. Les leçons n'auront plus le caractère d'intimité qu'elle conserve jusqu'au bout à la Providence. Mais M. Vianney à l'église sera plus émouvant encore que dans la salle de l'école, du seul fait qu'il parlera désormais à proximité du tabernacle. Le 5 novembre 1848, les sœurs de Saint-Joseph prendront possession de la Providence. Il s'agira là d'un désir de l'évêque de Belley, auquel le pauvre M. Vianney, fondateur, se soumettra avec humilité, mais sans joie. Les orphelines s'en iront, et le curé d'Ars dira à Monseigneur, vois en cela la volonté de Dieu, mais moi, je ne l'y vois pas. Seule l'étoile continuera à la Providence sous la direction des sœurs. L'école continuera à la Providence sous la direction des sœurs. Jeanne-Marie Chanet se retirera dans le village. Quant à Catherine Lassagne et à Marie Filia, elles iront habiter de petits appartements contigus au presbytère. À noter enfin que le 10 mars 1849, trois frères de la Sainte Famille de Belley viendront remplacer Jean Pertinent à la tête de l'école des garçons d'Ars, qui connaîtra dès lors, sous la férule du frère Athanase, un très bel épanouissement. Les choses se passent en famille, et selon le témoignage du chanoine Champenois, on trouvera, aux heures des catéchismes, non seulement les enfants de la maison, mais des bonnes femmes, filant leurs quenouilles. Les directrices qui se reposent un instant et ne voudraient pas manquer cela pour tout l'or du monde, et même des poules juchées sur la table. « Mes enfants, » dit pour commencer M. Vianney, qui est revêtu de son surplis, « nous en sommes restés hier à telle leçon. » Il lit ensuite la question du catéchisme et fait la réponse qu'il commente aussitôt. J'ai eu la chance de tenir entre mes mains un exemplaire authentique du catéchisme utilisé par M. Vianney. Il porte marqué à l'encre noire d'une écriture enfantine le nom d'Annette Scipio et la date de 1853. C'est le catéchisme de Monseigneur de Vie, chef du diocèse de Belley, et qui restera l'évêque préféré de M. Vianney. L'essentiel du petit ouvrage est bien sûr identique à celui de nos catéchismes d'aujourd'hui, mais certaines parties du texte sont assez pittoresques et je ne résiste pas au plaisir d'y noter ces passages. Demande, faut-il faire des prières vocales, jeter des soupirs au moment de la communion? Réponse, non, il faut prier de cœur plutôt que des lèvres. Demande, qu'est-ce qui conduit le plus ordinairement à l'impureté? Réponse, c'est surtout l'orgueil, l'oisiveté, l'intempérance, l'assistance au bal, aux danses, à la comédie, la lecture des romans, la fréquentation des personnes de sexe différent, l'immodestie dans les habits. Mais l'originalité de M. Vianney à la Providence réside dans le fait que très vite il déborde le simple cadre des questions et des réponses du catéchisme pour s'élancer dans de rudes et sublimes digressions. Donc il a déjà devant lui un auditoire mélangé d'enfants et de grandes personnes. Et malgré tout, c'est d'abord pour les enfants qu'il parle. Son premier objet est de leur inspirer la crainte de Dieu et l'horreur du mal. Monsieur Vianney, comme la plupart des docteurs de l'Église, fait une large place aux démons. Il ne craignait pas d'emprunter aux anciennes légendes les histoires les plus terribles, de manière quelquefois à glacer d'épouvante son jeune auditoire. Voici un exemple de cette partie brutale de son enseignement, qui d'ailleurs portera des fruits éclatants. Et n'oublions pas que les enfants et les jeunes filles à qui s'adresse le Saint-Curé n'ont souvent plus grand-chose à apprendre sur les vices. « Pour comprendre, dit Monsieur Vianney, combien ce péché de luxure que les démons nous font commettre, mais qu'ils ne commettent pas eux-mêmes, est horrible et détestable, il faudrait savoir ce qu'est un chrétien. Un chrétien créé à l'image de Dieu, racheté par le sang d'un Dieu. Un chrétien, l'enfant d'un Dieu, le frère d'un Dieu, l'héritier d'un Dieu. Un chrétien, l'objet des complaisances des trois personnes divines. Un chrétien dont le corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà ce que le péché déshonore. Il y a des âmes qui sont tellement molles, tellement pourries, qu'elles croupissent dans leur infection sans s'en apercevoir et ne peuvent plus s'en débarrasser. Tout les porte au mal, tout leur rappelle le mal, même les choses les plus saintes. Elles ont toujours ces abominations devant les yeux, semblables à l'animal immonde qui s'habitue dans l'ordure, qui s'y plaît, qui s'y roule, qui s'y endort, qui ronfle dans la boue. Voyez, mes enfants, notre Seigneur a été couronné d'épines pour expier nos péchés d'orgueil. Et, pour ce maudit péché, il a été flagellé et mis en pièces, puisqu'il dit lui-même qu'après sa flagellation, on aurait pu compter tous ses os. Oh, mes enfants, s'il n'y avait pas quelque acte pur par là à travers, pour dédommager le bon Dieu et désarmer sa justice, vous verriez comme nous serions punis. Car maintenant, ce crime est si commun dans le monde qu'il y a de quoi faire trembler. On peut dire, mes enfants, que l'enfer vomit ses abominations sur la terre comme l'écorné de la vapeur vomissent la fumée. Le démon fait tout ce qu'il peut pour salir notre âme, et cependant, notre âme, c'est tout. Notre corps n'est qu'un tas de pourriture. Allez voir au cimetière ce qu'on aime quand on aime son corps. L'âme impure est comme une bête crevée qu'on a traînée pendant 8 jours au gros soleil le long des rues. Cette image très brutale, le curé d'Ars s'en servira plusieurs fois. Il dit encore, « Mes enfants, nous avons peur de la mort. » Je le crois bien. C'est le péché qui nous fait peur de la mort. Et là, mon Dieu, il y a bien de quoi être effrayé. Penser qu'on est maudit de Dieu, ça fait trembler. Maudit de Dieu, et pourquoi ? Pourquoi les hommes s'exposent-ils à être maudits de Dieu ? Pour un blasphème, pour une mauvaise pensée, pour une bouteille de vin, pour 2 minutes de plaisir, pour 2 minutes de plaisir. Perdre Dieu, son âme, le ciel, pour toujours ! Et puis, avec ce sens de l'image et de la parabole qui fait que M. Vianney dépasse de très loin les plus illustres prédicateurs de son temps pour s'approcher de l'Évangile, il ajoute « Mes enfants, si vous voyez un homme dresser un grand bûcher, entasser des fagots les uns sur les autres, et que lui demandant ce qu'il fait, il vous réponde « Je prépare le feu qui doit me brûler, que penseriez-vous ? Et si vous voyez ce même homme approcher la flamme du bûcher ?» Et quand il est allumé, se précipiter dedans. Que diriez-vous ? En commettant le péché, c'est ainsi que nous faisons. Ce n'est pas Dieu qui nous jette en enfer, c'est nous qui nous y jetons. On voudrait tout citer. Nous l'imaginons, nous le voyons. Ce prêtre dans son âge mûr, amaigri, émacié, mais rempli d'une force irrésistible. Car il parle de l'enfer. Et s'il en parle, et s'il frappe son auditoire, s'il ne craint pas de faire peur aux enfants qui l'écoutent, c'est de l'amour de Dieu qu'il préfère les entretenir. Sur ce sujet-là, il est encore bien plus intarissable que sur les démons. Appuyé à sa table, fixant l'auditoire de ses yeux bleus enfoncés, magnétiques, étincelants de tendresse et de certitude, pendant des années, il élèvera son extraordinaire incantation. Voyez, mes enfants, il faut tout offrir au bon Dieu, son travail, ses pas, son repos, tout. Ce que nous faisons sans le lui offrir est perdu. Oh, que c'est beau de tout faire avec Dieu, que c'est consolant de tout faire en l'accompagner sous les yeux de Dieu, de penser qu'il voit tout, qu'il compte tout. Disons donc chaque matin, que vas-tu faire aujourd'hui? Tout pour vous plaire, ô mon Dieu. Toutes mes actions avec vous. Pour une âme qui a la foi, que la pensée de Dieu est consolante, on est là comme de bons amis ensemble. Jamais on ne se lasse de prier. Les heures s'écoulent comme des minutes. C'est un avant-goût du ciel. Si lorsque nous venons à l'église, nous étions bien pénétrés de la présence de Dieu, et si nous l'adorions, nous le contemplerions des yeux de la foi, comme cet enfant qui voyait à la place de l'ostensoir l'enfant Jésus. Le prêtre, pour s'assurer de la réalité de cette vision, demanda « Qui est là ?»« C'est Dieu, » répondit une voix, « qui sortait de l'ostensoir. » Il y en a qui entrent à l'église comme sur une place publique, regardant tout le monde et de tous côtés. Ils entendent la messe debout ou bien couchés sur une chaise. Quelques-uns mettent un genou en terre. Ils se moquent vraiment du bon Dieu. Ah ! Ça fait frémir. Si nous ne nous mettons pas à genoux devant Dieu, devant qui donc nous nous mettrons à genoux? Monsieur Vianney parfois rompt le cours de ces sublimes redites, de cette monotonie triomphale, pour attraper son monde par la peau du cou, pour admonester l'auditoire, pour le mettre devant le fait de la médiocrité et de l'indifférence quotidienne. Quand ils viennent à la messe, ils ne prennent pas tant de précautions. Ils y viennent en parlant, en se tiripilant. Expression du pays de l'époque qui veut dire en se querellant. Comme s'ils allaient au cabaret ou à la danse. Bien, mais bientôt, la transcendance de l'amour divin le reprend à la gorge. Et de nouveau, il parle de la seule chose qui lui soit essentielle. Et c'est alors l'admirable catéchisme sur l'âme pure qui a retrouvé la source de l'amour. C'est aussi peinte avec des mots qui ont les couleurs vives de Fra Angelico, l'ami du ciel qui est en paix avec le bon Dieu, toujours contente, toujours joyeuse. Ô belle vie et belle mort. C'est encore l'étonnante anecdote de l'échange. Mes enfants, vous vous rappelez l'histoire que je vous ai déjà racontée de ce saint prêtre qui priait pour son ami? Apparemment, Dieu lui avait fait connaître qu'il était en purgatoire. Il lui vint en pensée qu'il ne pouvait rien faire de mieux que d'offrir le saint sacrifice de la messe pour son âme. Quand il fut au moment de la consécration, il prit la sainte hostie entre ses doigts et dit « Père saint et éternel, faisons un échange. Vous tenez l'âme de mon ami qui est en purgatoire et moi je tiens le corps de votre fils qui est entre mes mains. Eh bien, délivrez mon ami, et je vous offre votre fils avec tous les mérites de sa passion et de sa mort. » Ce ton-là, bien sûr, n'a rien de commun avec l'éloquence crémeuse et fleurie qui sévit en cet âge romantique du milieu du XIXe siècle, où l'on entend des prédicateurs par ailleurs estimables lancer du haut de la chaire les sous-produits de Monsieur de Chateaubriand, présenter des imitations amollies du grand Bossuet, pleurer les larmes confites et sucrées de Lamartine. Le célèbre, l'ardent Lacordaire que nous retrouverons dans ce récit n'échappe pas lui-même entièrement à ce vice de la fausse éloquence. Ô tristesse des vastes périodes balancées qui endorment l'attention comme la houle monotone endort les passagers. Nous ne pouvons résister au désir un peu cruel de présenter ici un morceau de cet art funeste. Le silence des travaux serviles, compensé par la voix joyeuse et mesurée des cloches, avertit les hommes qu'ils sont libres et les prépare à supporter pour Dieu les jours où ils ne le sont pas. Rien d'austère n'obscurcit les visages. L'idée de l'observance est modérée par celle du repos, et l'idée du repos est embellie par l'image d'une fête. Terrible ronron, balancement générateur de piété paresseuse et de sommeil spirituel. Je le répète, à cette époque de redondance, de lyrisme facile et de mauvais goût, la parole du curé d'Ars est vraiment un phénomène neuf. Elle apporte un ton que l'on n'a jamais entendu. Une sorte de réveil en fanfare. Un appel clair et dru de trompette et de clairon. Nous y trouvons l'héroïsme du soldat, le son de la cloche paysanne, l'interpellation directe du père à l'enfant, dans la tendresse et dans la sévérité de l'amour. Cette ignorance de l'académisme, ce mépris de la mode, ce goût de la répétition verbale, plantant la foi dans les âmes, voilà qui déjà retentit jusqu'au fond des consciences. Et le démon lui-même le comprend bien, car une possédée adressera un jour, d'une voix aigre, cette apostrophe au curé d'Ars. Pourquoi prêches-tu si simplement? Tu passes pour un ignorant, pourquoi ne prêches-tu pas en grand, comme dans les villes? Ah! Comme je me plais à ces grands sermons qui ne gênent personne, qui laissent les gens vivre à leur mode et faire ce qu'ils veulent. Bien sûr, malgré l'énergie et les succès de M. Vianney, il reste des pêcheurs à Ars et des indifférents. On ne pratique pas les sacrements avec régularité. Et bien des travailleurs n'honorent pas le repos du dimanche, sans parler de cette passion frénétique de la danse dont le Saint-Curé n'est pas encore venu à bout. Mais les bonnes gens de la région commencent à deviner en effet que c'est bien d'un saint qu'il s'agit. On ne saura jamais les grâces de conversion que monsieur le curé a obtenues par ses prières et surtout par la célébration du saint sacrifice. Il se fait une révolution dans les cœurs. La grâce était tellement forte que bien peu pouvaient résister. Presque tout le monde travaillait de toutes ses forces à sortir du péché. Le respect humain était renversé. On avait honte de ne pas faire le bien et de ne pas pratiquer sa religion. On voyait les hommes sérieux et pensifs, on entendait certains d'entre eux qui ne s'étaient pas approchés du Saint-Tribunal depuis bien longtemps dire tout haut sur les chemins « Je veux me confesser ». Oui, le curé d'Ars passe déjà pour un saint, et l'on assiste peu à peu dans ce village à des spectacles qui paraissent étranges, si l'on considère la route parcourue. On voit un paysan mener son attelage, tenant un chapelet dans ses mains. Au temps de la moisson, deux petites croix se dressent à l'entrée des champs. On entend des laboureurs chanter des cantiques en travaillant, et les blasphèmes, on ne les entend plus. Braque de la Perrière, dans ses souvenirs de deux pèlerinages à Ars, raconte qu'il voit un jour, en traversant Ars, un cheval que trois paysans retirent d'une fâcheuse position, sans faire le moindre mouvement de colère, sans lancer ni coup ni juron à la pauvre bête, et le témoin d'ajouter une aussi grande retenue chez des campagnards menacés dans leur intérêt était pour nous chose inconnue. Il en conçoit un grand respect pour le curé d'Ars et pour son influence. Le soir, quand la cloche sonne pour la prière, l'église est vite remplie, et la plupart de ceux qui ne peuvent s'y rendre, laissant là leur travail, s'agenouillent chez eux. C'est la vie même qui est changée dans ce hameau, et déjà la paroisse de M. Vianney ne ressemble à aucune autre. L'ensemble de sa petite population vit sans religion d'une manière à la fois active et profonde, dont on n'a sans doute jamais trouvé l'exemple nulle part ailleurs. Et M. Vianney, qui est bien content de ses paroissiens, mais parfaitement inconscient de sa propre influence et de ses propres mérites, continue ses visites, échange familièrement avec ses ouailles de paroles de simplicité, sans se douter qu'il est déjà vénéré comme un saint vivant. Il n'a toujours qu'une soutane, et il la porte jusqu'à ce qu'elle tombe presque en lambeaux. Les pièces et les trous n'y font rien. Il consent à la laisser accommoder quand elle a trop besoin, c'est-à-dire, en fait, quand elle n'est absolument plus portable. Il en est de même de son chapeau qui est arrivé à n'avoir plus aucune forme, parce qu'il le fait durer éternellement, et de ses souliers dont n'approche jamais la brosse ni le cirage. Il continue d'aller ainsi aux conférences et aux réunions d'ecclésiastiques, en cette époque où l'on apprécie guère les soutanes vertes, bravant les railleries de ses confrères qui souvent se moquent de lui. Et quand, muni du petit pot qui contient son déjeuner, il s'en retourne à la cure et traverse la place du village, il a l'air, avec son habit déchiré, ses souliers rouges, son horrible chapeau, sa ceinture en loques, son rabat éraillé et mal ajusté, plus pauvre que le plus misérable mendiant de sa paroisse. Des amis lui en font la remarque et il répond invariablement « C'est assez bon pour le curé d'Ars ». Et lorsqu'un jour un ecclésiastique hautain et passablement gourmé lui demande en affectant la surprise « est-ce vous qui êtes monsieur le curé d'Ars dont tout le monde parle ?»« Oui, mon bon ami, c'est moi qui suis le pauvre curé d'Ars », répond-il avec la plus parfaite humilité. Mais il règne, ce pauvre curé, comme sans doute aucun prêtre n'a jamais régné sur son troupeau. Ce qui nous frappa tout d'abord, raconte un pèlerin lyonnais qui revient d'Ars, ce fut le calme et la paix de ces lieux. Sur cette terre, on semblait respirer un air plus doux qu'ailleurs. L'hospitalité chrétienne et les relations fraternelles paraissaient dans les habitudes de tous. Nous remarquâmes que les maisons étaient ornées de statues de la Vierge ou d'images de saints. Dès lors, on comprend que M. Vianney, si exigeant qu'il soit, ne puisse se retenir de dire un jour à ses paroissiens « Mes frères, j'ai confessé et prêché dans des jubilés, dans des missions. Je n'ai rien trouvé comme ici. » Ajoutant, pour leur exprimer à sa manière toute son admiration et son amour, « Ars n'est plus Ars ».